Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Vous allez bien en ce 18 avril 2018?
Oui, absolument, oui.
Oui, déjà la mi-avril, même plus. Ça va vite, hein?
Oui, oui, un mois et demi bientôt.
Oui, oui, oui.
Encore un mois et demi, c'est l'été.
Mais moi, j'aime bien que le vrai printemps s'installe. Hier, vous me disiez que oui, quand il y a même
oui, c'est
le
printemps
de la plus
vieux,
neige,
oui,
plus
c'est
vieux.
Printemps,
ça, c'est l'aspect moins intéressant, malgré qu'une journée ou deux. Mais quand ça dure deux semaines, là, c'est là que ça
mais
devient
ça achète,
plus lourd.
Je crois que dans les jours à venir, le soleil
en
va se pointer.
En fin de semaine, on
ouais.
prévoit du beau soleil. Alors, ça donne bien parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en congé la fin de semaine. Puis même quand on n'est pas en congé, c'est toujours plus agréable.
Et ça va éclore à gauche et à droite.
Oui, les crocus vont s'ouvrir.
Et les petits bourgeons et tout.
Oui.
C'est bon.
C'est bon, c'est bon.
Ce 18 avril, quelques dates à souligner. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des monuments et des sites.
Ah oui.
Le but de cette journée est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes et encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. À une époque où on choisit souvent de détruire le vieux pour faire du neuf, hélas. Donc,
oui.
Oui, oui. Souvenez-vous-en, c'est la journée des monuments et des sites. Donc, quelques événements en 1506. 7 mètres sous le niveau du sol, le pape de l'époque, Jules II, bénit la première pierre de la basilique Saint-Pierre de Rome et les travaux se termineront en 1667. En 1863, Jules Verne publie 5 semaines en ballon. En 1906, il y a un gros tremblement de terre à San Francisco qui déclenche un grand incendie qui fera plus de 3000 morts et de 265 000 sans-abri quand même. Et depuis ce temps-là, on attend la fameuse faille de Saint-Andréas. On attend le prochain, là, on ne sait jamais quand.
On l'appréhende.
Ouais. En tout cas, on sait que ça s'en vient, mais on ne peut pas donner de date. En 1909, Jeanne d'Arc est béatifiée par le pape Pie X. En 1946, faisant place aux Nations Unies, la Société des Nations est dissoutée. Voilà, donc c'est le début de l'ONU. En 1949, c'est la proclamation officielle à Dublin de la République de l'Irlande. Date plus triste, en 1966, c'est la date marquant le début de la révolution culturelle en Chine. En 1973, le premier numéro du journal Libération paraît, fondé sous l'égide de Jean-Paul Sartre. En 1988, il y a une grosse panne électrique ici au Québec, où le Québec est presque entièrement éteint. Et ça, eh bien, on ne dit pas que s'il y a eu un boom de naissance 9 mois plus tard, on ne le sait pas. On n'a pas de naissance pour aujourd'hui. Et on souligne deux décès. Mercedes Palomino, qui avait fondé le théâtre du Rideau Vert, nous quittait en 2006.
Avec Yvette Brind'Amour.
Et en 1955, le physicien allemand Albert Einstein, lui, nous quittait.
On n'est pas, lui. Non, non. Ouais. Quand même. E égale MC2 et même plus.
Oui.
Merci. À la une de la presse, condamné à 4 ans de prison à Cuba. Il s'agit d'un père de famille de Mascouche. Je vous en dis plus dans quelques instants. Idée d'ailleurs, des routes de plastique contre les nids de poules. Photo obscène envoyée par le député Yves Saint-Denis. Le PLQ avait été prévenu dès 2014. Et la chronique de Rima El-Khoury intitulée « Les héritiers de MeToo ». Un article d'Agnès Grouda, c'était le dernier jour d'une semaine de vacances en famille à Cayo Coco à Cuba, mais ce vendredi matin-là, ce qui devait être un séjour de rêve s'est transformé en une double tragédie. D'abord pour Jennifer Anne Marie Innis, touriste ontarienne qui a été happée par l'hélice d'un bateau qui a percuté sa propre embarcation et lui a tailladé le crâne, la tuant sur le coup. Ensuite, pour le conducteur du hors-bord, le Québécois Toufik Benhamiche, que la justice cubaine a jugé coupable d'homicide par imprudence, condamné à 4 ans de prison, il est coincé dans l'île depuis 9 mois. Il a porté ce verdict en appel. Sa cause doit être entendue la semaine prochaine. En attendant, le père de famille de Mascouche a l'impression de jouer dans un mauvais film dont il est devenu bien involontairement le héros. « Je me sens pris dans un guet-apens, pris en otage par un gouvernement qui refuse de reconnaître la responsabilité d'une entreprise publique dans cet accident », a-t-il dit en soupirant lorsque nous l'avons joint à Cuba. Alors, le fil des événements, 1er juillet 2017, Toufik Benhamich arrive à Cayo Coco, à Cuba, dans le cadre d'un forfait Sunwing avec sa femme et leurs 2 enfants. 7 juillet 2017, la famille doit prendre part à une excursion organisée par l'entreprise Marlin, partenaire de Sunwing. Tôt le matin, Toufik Benhamich perd la maîtrise du bateau et fonce sur le quai, tuant une touriste canadienne. 8 juillet 2017, la femme et les enfants de M. Benhamich rentrent comme prévu au Québec. 4 décembre 2017, procès devant le tribunal populaire de Ciego de Ávila. 20 décembre 2017, le tribunal rend son verdict et condamne M. Benhamich à 4 ans de prison pour homicide par imprudence. Par imprudence est écrit donc entre guillemets. Pour l'avocat qui représente M. Benhamich au Québec, Julius Gray, ce tragique dénouement s'explique par un conflit d'intérêts. L'État cubain, qui est le véritable propriétaire de l'entreprise Marlin, veut se soustraire à l'éventualité de compenser la famille de Mme Innes. Et pour cela, il doit rejeter toute la faute sur Toufik Benhamich. Dans sa décision en première instance que la presse a obtenue, le tribunal provincial populaire de Ciego de Ávila juge que c'est M. Benhamich qui s'est montré imprudent, notamment parce qu'il a embarqué sa femme et ses filles à bord d'un bateau qui n'était pas apte à porter une telle charge. La requête en appel doit être entendue, je vous le rappelle, 24 avril, c'est mardi prochain. Photo obscène envoyée par le député Yves Saint-Denis, l'employé politique libéral qui avait reçu sur son téléphone une photo pornographique du député libéral Yves Saint-Denis, avait prévenu la direction du Parti libéral du Québec dès 2014, a appris la presse. Des sources sûres ont aussi indiqué que le député, qui a quitté hier le caucus du PLQ, avait également transmis des photos dégradantes à 2 jeunes employés de la permanence du parti, des secrétaires qui ont depuis quitté leur emploi. C'est cette révélation qui a poussé fin octobre la première victime, employée politique dans les Laurentides, à revenir à la charge auprès du cabinet de Philippe Couillard et auprès d'un responsable de l'organisation du parti. Selon les informations recueillies, la dénonciation de 2014 survenue peu après les élections d'avril était carrément restée lettre morte, aucune suite n'y ayant été donnée par la direction du PLQ, informée de l'inconduite du député alors nouvellement élu. Dès octobre, l'employé avait raconté l'histoire à Nicole Ménard, whip du Parti libéral. Pourtant, Mme Ménard publiquement reportait au 1er décembre, plus d'un mois plus tard, cette dénonciation. Celle-ci, comme le prévoit la directive sur le harcèlement des employés politiques, a soumis la question à la répondante en matière d'inconduite sexuelle de la Direction des ressources humaines à l'Assemblée nationale. Ayant changé d'emploi, elle est passée du parti à un cabinet politique. La victime avait changé de téléphone cellulaire et ne pouvait produire la photo incriminante, a-t-on appris. En marge de l'annonce du gouvernement sur le transport et la mobilité durable, le premier ministre Philippe Couillard a commenté hier l'affaire Saint-Denis, révélant que la plainte de l'employé politique portait aussi sur des questions de harcèlement psychologique, ce qui est inexact, assure-t-on. Pour la whip du Parti québécois, Carole Poirier, l'épisode soulève des questions sur la manière dont l'équipe libérale a géré le cas du député. Si les faits révélés sont exacts, je me questionne sur le fait que la whip, Nicole Ménard, n'ait pas informé son chef et qu'il n'y ait pas eu de mesures prises contre M. Saint-Denis et qu'on ait attendu que ça soit dans l'immédiat pour qu'il se retire du caucus, a-t-elle indiqué. Le service de sécurité incendie de Montréal, le CIM, s'est dit disposé à permettre le port de signes ostentatoires aux pompiers montréalais. Aucune demande n'a jamais été formulée en ce sens, mais la direction indique qu'elle évaluerait les demandes d'accommodement en fonction des risques liés à la santé et la sécurité du travail. La Commission de la sécurité publique de Montréal a entendu aujourd'hui le CIM sur son plan pour tenter de recruter davantage de femmes et de membres des minorités visibles, qui représentent à peine 1 % des pompiers. Questionné par une élue sur les signes ostentatoires, le service a indiqué avoir réfléchi sur la question. Il n'y a pas de nom au départ, a résumé Suzanne Desjardins, qui conseille le CIM dans ses efforts pour mieux représenter la diversité montréalaise. La question a été soulevée alors qu'un débat sur le port du voile et du turban a été relancé au service de police de la Ville de Montréal. Un modèle de hijab a été testé par l'École nationale de police ainsi que par la Gendarmerie royale du Canada, et celui-ci ne pose pas de problème pour le travail de policier. L'administration Plante a clairement indiqué au CIM qu'elle s'attendait à des améliorations quant à son manque de diversité. « On doit redresser la situation », a indiqué Nathalie Goulet, élue responsable de la sécurité publique. Après l'Alberta lundi, la Saskatchewan a menacé à son tour de fermer le robinet du pétrole vers la Colombie-Britannique hier pour punir la province de son opposition à l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain. Dans un message au ton cassant sur Twitter, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a confirmé le dépôt imminent d'une loi pour restreindre les exportations d'or noir vers la province de l'Ouest. Si les réservoirs d'essence commencent à s'assécher en Colombie-Britannique parce que l'Alberta a fermé le robinet, « Ce ne sera pas la Saskatchewan qui va les remplir », a-t-il écrit hier matin. La Colombie-Britannique se retrouve de plus en plus sous pression depuis l'annonce surprise de la société texane Kinder Morgan la semaine dernière. L'entreprise a suspendu jusqu'au 31 mai tous les investissements non essentiels sur son projet d'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain qui relie les sables bitumineux de l'Alberta au port de Vancouver. Le projet de 7,4 milliards de dollars qui triplera la capacité de l'oléoduc existant est considéré comme essentiel à la croissance économique de l'Alberta. Le ministère fédéral des Ressources naturelles a dépensé 5 000 pour acheter 3 600 mentions « J'aime » sur Facebook, a-t-on appris hier, une dépense jugée frivole par l'opposition conservatrice à Ottawa. Selon des documents déposés cette semaine à la Chambre des commerces diffusés hier par le site iPolitics, le ministère des Ressources naturelles a dépensé 3 500 en octobre et en novembre dernier pour acheter 2 668 « J'aime » sur la version anglaise de la page Facebook d'Energy Star Canada. Cela représente 20 % de toutes les mentions « J'aime » de la page. La presse a révélé en février que le gouvernement fédéral avait plus que triplé ses achats publicitaires sur Facebook pendant la dernière année. Ils ont atteint 4,6 millions de dollars. Au total, Ottawa a dépensé 16,8 millions sur des plateformes comme Facebook et Google l'an dernier, soit 54,7 % de sa facture publicitaire totale, selon un document préparé par Services publics et Approvisionnement Canada. Les millions en argent public dépensés par Ottawa sur ces plateformes envoient un message équivoque, avaient estimé les critiques, puisque le gouvernement fédéral répète depuis 2 ans et demi vouloir s'attaquer à l'évasion fiscale par tous les moyens mis à sa disposition. « Barbara Bush s'éteint à 92 ans, l'ancienne première dame aux cheveux enneigés qui s'est démarquée par son franc-parler et son style sans prétention s'est éteinte hier, elle avait 92 ans. Le porte-parole de la famille, Jim McGrath, a confirmé la nouvelle dans un communiqué. La cause de sa mort n'était pas encore connue. En 1998, lors de l'élection de son mari George H. W. Bush à la présidence, Madame Bush avait amené un style différent à Washington avec ses colliers de fausses perles et sa crinière blanche ondulée. « Avec moi, tu as ce que tu vois. Je ne me présente pas à la présidence, c'est George Bush qui se présente », avait-elle dit à la Convention républicaine de 1988, lorsque son mari, alors vice-président, avait été désigné pour succéder au président de l'époque, Ronald Reagan. Les Bush, qui se sont mariés le 6 janvier 1945, détiennent le record du mariage le plus long parmi tous les autres couples présidentiels. Ma chère mère est décédée à l'âge de 92 ans. Laura, Barbara, Jenna et moi-même sommes tristes, mais nos âmes sont en paix parce que nous savons que la sienne l'était aussi, a déclaré l'ancien président George W. Bush.
Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour.
Manu Chao et la pièce « Je ne t'aime plus ».
À la une du Devoir, une photo de Mohamed Kabar, 43 ans, qui n'a pas été en mesure de reprendre son emploi de barbier à la suite des blessures qu'il a subies, étant incapable de rester debout durant de longues périodes, attentat de Québec, jamais le tueur ne devrait être libéré, des proches et des victimes réclament une sentence à la hauteur de leur douleur. Québec veut classer Saint-Jérôme bien patrimonial. La décision du MBAC, le Musée des beaux-arts du Canada, de vendre un Chagall pour acquérir le David, continue de soulever des questions. Jongler entre tradition et modernité, reconquérir sa propre culture, la transmission du savoir ancestral peut être un remède aux maux de l'âme. On a une photo sous laquelle on peut lire « Des hommes d'Inuk Juak apprennent aux plus jeunes comment pêcher, chasser et construire un igloo pour se protéger du froid ». Culture, un court-métrage québécois à Cannes, « Le sujet » de Patrick Bouchard, sera présenté à la quinzaine des réalisateurs. Pierre Moscovici, où nous conduirons les populistes? Mobilité durable, un plan qui se veut la baie James de notre époque. Des proches et des victimes de l'attaque du 29 janvier à la Grande Mosquée de Québec ont demandé au juge François Huot de faire en sorte qu'Alexandre Bissonnette ne puisse jamais sortir de prison. Ce dont je me soucie et qui me terrifie le plus, et ce, jusqu'à la fin de mon existence, c'est qu'un jour viendrait où l'on annoncerait qu'il puisse voir sa peine allégée, ou puisse être libéré, et de ce fait blanchi de ses atrocités, a déclaré Louisa Mohamed Saïd, la veuve d'Abdel Krim Hassan, l'un des six hommes tués ce soir-là. La venue de ce jour serait une seconde mort pour nos victimes et pour ceux qui ont été épargnés. Une mort sans paix pour nos disparus, a ajouté la femme dans une lettre qu'elle a lue devant le juge. Le juge Huot entend ces jours-ci les témoignages des victimes dans le cadre des observations sur la peine d'Alexandre Bissonnette. Ce dernier, ayant plaidé coupable, on sait déjà qu'il subira un minimum de 25 ans de prison. Or, le cumul de ces crimes l'expose à une peine pouvant atteindre 150 ans, sans possibilité de remise en liberté. Mardi, Mme Saïd n'est pas la seule à avoir demandé au juge d'empêcher que M. Bissonnette puisse un jour sortir de prison. Saïd El Amari, l'un des blessés qui ont survécu, a fait une demande similaire. « Je suis effrayée à l'idée qu'une telle personne, avec un tel esprit tordu, se retrouve dans la même société que moi d'ici 25 ans, ou se retrouve avec mes enfants. » Ottawa n'acceptera plus jamais les informations obtenues sous la torture. Le gouvernement de Justin Trudeau ne fait pas confiance à ses éventuels successeurs en matière de torture. Il codifiera dans une loi la directive donnée à ses agences de renseignement leur interdisant d'utiliser des informations obtenues sous la torture, a appris Le Devoir. L'idée est de compliquer la tâche à tout futur premier ministre qui voudrait revenir en arrière. Les libéraux déposeront au cours des prochains jours un amendement à leur projet de loi C-59 sur le terrorisme pour y ajouter les dispositions sur la torture. Ça formalisera les bonnes pratiques canadiennes, explique le député Michel Picard, qui pilote ce changement. Le Canada s'oppose à la torture depuis longtemps, mais les gouvernements ne se donnent pas tous les mêmes règles lorsqu'il s'agit d'utiliser ou pas des renseignements provenant des sources étrangères douteuses. Les conservateurs de Stephen Harper avaient par exemple décrété en 2010 que si les informations portées à l'attention du Canada pouvaient sauver la vie de Canadiens, il ne fallait pas les écarter. Les parents de quelques 6 000 enfants devront se trouver un plan B mercredi et jeudi, puisque les employés de 61 centres de la petite enfance, les CPE de Montréal et Laval, seront en débrayage. Les travailleurs reprochent notamment à leurs employeurs, regroupés sous l'Association patronale nationale des CPE, de refuser de reconnaître l'entente nationale conclue en novembre dernier entre la Fédération de la santé et des services sociaux, des associations patronales et le ministère de la Famille. Le Bloc québécois et le NPD somment à leur tour Justin Trudeau d'accorder une citoyenneté honorifique au blogueur Raif Badawi, emprisonné en Arabie saoudite depuis 6 ans, afin de faciliter sa libération. L'épouse de Raif Badawi, Ansaf Haidar, en avait fait la demande dans une lettre ouverte adressée au premier ministre à la mi-mars, mais en vain. Une citoyenneté honorifique canadienne légitimerait, selon l'opposition, une intervention du gouvernement canadien pour faire libérer M. Badawi. Mais les libéraux ne sont pas du même avis. Selon le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, Omar Al-Ghabral, l'octroi d'une citoyenneté honoraire ne changerait cependant rien, selon lui, au refus du régime saoudien de voir Ottawa intervenir de façon officielle ou même informelle dans le dossier de M. Badawi, qui est citoyen de l'Arabie saoudite. Compte tenu des circonstances et de notre évaluation de la situation, on n'est pas certain que ce soit la meilleure marche à suivre, a indiqué M. Al-Ghabra. Le Canada n'a accordé que 6 citoyennetés canadiennes honoraires depuis 1985, les 5 dernières années depuis 2001 à des personnalités comme Nelson Mandela ou Malala Yousafzai. Déjà emprisonné à vie pour le meurtre de deux gardiens de prison, l'ex-chef des Hells Angels au Québec, Maurice Mambouché, détenu depuis 2002, a reconnu avoir comploté depuis sa cellule entre juillet et novembre 2015 pour faire assassiner une autre figure bien connue du monde interlope, le caïd de la mafia Reynald Desjardins. Il reviendra devant le tribunal le 11 mai au centre judiciaire Gouin pour les observations sur la peine. La Couronne et la Défense ont indiqué qu'elles se sont déjà entendues pour une suggestion commune sans que celle-ci ait été précisée publiquement. Le président de Cuba, Raúl Castro, 86 ans, passe le témoin jeudi à une nouvelle génération pour une transition qui marquera la fin de près de 6 décennies de pouvoir sans partage de la fratrie Castro sur l'île caribéenne. Nous avons parcouru un long, long, long et difficile chemin pour que nos enfants, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, soient heureux, déclarait en mars le cadet des Castro qui avait succédé en 2006 à son frère fidèle, alors affaibli et finalement décédé en 2016. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens de Canal M de Vues et Voix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous dans un petit moment, la revue de presse du Journal de Montréal. Bonne journée.
Me voilà bourgeon sans racines, comme une fleur qu'on ne devine que par la forme, la taille fine, rien que bourgeon sans racine. Comme on épluche une clémentine, tu m'as cuisiné sans farine, c'est la beauté que tu élimines. Diamant que tu retournes à la mine. Je préfère voir les fleurs sauvages couvrir notre tombe. Une rose ou une fleur plastique me ferait de l'ombre. Je préfère voir ces fleurs sauvages pour lesquelles jamais
On vient d'entendre Valérie Carpentier, la pièce « Les fleurs sauvages ».
Et à la une du Journal de Montréal de ce mercredi 18 avril, intercepté en bixi à contresens, le maire du plateau, Luc Ferrandez, grand défenseur du vélo et des rues à sens unique, s'est fait prendre par la police hier alors qu'il circulait en sens inverse sur le boulevard Saint-Laurent. On le voit appuyé sur un vélo. Je pense pas que c'est une photo qui est en lien avec son arrestation d'hier parce qu'il est tout sourire. Cannabis, subvention unique, contrat avec la SAC, financement offshore, l'entreprise d'un ami, entre guillemets, de Couillard, choyé par Québec. Fournisseur de potes du Québec et ami de Couillard, le premier ministre a été associé avec l'homme d'affaires Lloyd Mitchell Seagull dans un fonds d'investissement. Un ex-associé du premier ministre, Philippe Couillard, préside l'une des rares entreprises qui approvisionneront la Société québécoise du cannabis, SQDC, et la seule à avoir reçu une subvention de Québec, alors qu'elle est en partie financée par des fonds provenant de paradis fiscaux. Le Montréalais Lloyd Mitchell Seagull, qui occupe la présidence du conseil de la firme de potes ontarienne Med Relief depuis juillet 2017, a été associé à l'actuel premier ministre Philippe Couillard entre 2010 et 2012 au sein de la firme Persistence Capital Partners, PCP. C'est ce fonds d'investissement dans le secteur de la santé qui a embauché M. Couillard lors de son passage au privé en 2007. Med Relief est l'une des six firmes qui ont signé une entente pour approvisionner les succursales de la SQDC, la filiale de la SAQ, qui aura le monopole de la vente du cannabis. La société d'État lui achètera 8 000 kg de potes par année pour 3 ans. Elle est également la seule entreprise de cannabis à avoir reçu une subvention du gouvernement du Québec, soit 84 000 $ de fonds publics versés en 2016. Je le considère comme un ami. Mais je n'ai pas été en contact avec lui depuis sa réélection en 2014, a écrit M. Seagull en guise de réponse à l'une des questions posées par notre bureau d'enquête. Au bureau du premier ministre, on précise que Philippe Couillard a quitté PCP en 2012 et qu'il s'est départi de tout intérêt dans ce fonds à ce moment. Une femme aspirée par le hublot d'un Boeing. Une passagère d'un avion est morte hier après que le hublot à côté d'elle eut brisé à la suite de l'explosion d'un moteur. Selon des témoins, elle a été partiellement aspirée à l'extérieur et des gens ont dû la retenir à l'intérieur de toute leur force. La moitié supérieure de son torse sortait par la fenêtre, a affirmé au journal The New York Times un passager, Max Cradleman. Il y avait beaucoup de sang parce qu'elle a été touchée par une partie des débris du moteur après l'explosion. La victime, identifiée comme étant Jennifer Riordan par plusieurs médias, serait restée de longues minutes à l'extérieur de l'avion avant que des hommes réussissent à la ramener à l'intérieur de peine et de misère. Elle était inconsciente et blessée gravement, selon des témoins. Le Boeing 737 qui transportait 149 personnes avait décollé de l'aéroport LaGuardia à New York à destination de Dallas, avant d'atterrir en urgence vers 11h20 à Philadelphie, environ 150 km au sud-ouest de son point de départ. L'accident est survenu à environ 30 minutes après le décollage. « Nous pensons que des parties du moteur se sont détachées », a indiqué lors d'une conférence de presse Robert Sumwalt, président de l'Organisme fédéral de la sécurité des transports, qualifiant l'accident à ce stade de défaillance de « moteur ». Les autorités ont indiqué qu'une personne, sans préciser son identité, était morte dans l'événement et que 7 avaient subi des blessures mineures. Harry Potter sera à l'abbaye d'Oka. L'acheteur de l'abbaye d'Oka veut la transformer en lieu thématique sur Harry Potter, le trône de fer et l'époque médiévale avec des tournois de chevaliers armés de lances et des séjours d'immersion réels basés sur de populaires jeux vidéo. Le promoteur Alexandre Triquet et d'autres partenaires qui n'ont pas été dévoilés achèteront d'ici quelques semaines l'abbaye d'Oka. Il a l'intention d'y attirer les amateurs de magie et du Moyen-Âge. Dès le mois d'août, il sera possible de vivre dans une classe d'immersion grandeur nature en sorcellerie. Les gens auront vraiment l'impression de se retrouver dans l'univers de Poudlard et de Harry Potter. L'entreprise compte organiser plusieurs journées ou week-ends sur différents thèmes dès cette année, dont un sur la populaire série Le Trône de Fer, Games of Thrones. Emma et William, toujours en tête des prénoms, l'organisme Retraite Québec publie son classement annuel des prénoms de bébés les plus populaires. Pour une première fois, le prénom Logan s'est taillé une place de choix dans le top 10 et s'est hissé au deuxième rang, tandis que William domine le classement pour une cinquième année consécutive. Selon le classement de Retraite Québec, Raphaël et Léo sont présents dans les 10 prénoms les plus populaires pour une première fois. Alors, chez les filles, voici le palmarès. Emma en premier, suivi de Léa, Alice, Olivia, Florence, Charlotte, Charlie, Rosalie, Béatrice et Zoé. Et chez les garçons, numéro 1, William, Logan en deuxième, Liam, Noah, Jacob, Thomas, Raphaël, Nathan, Léo et Alexis. Le policier de la SQ qui a utilisé son arme sans discernement et blessé 3 manifestants, dont 2 gravement lors de l'émeute de Victoriaville de 2012, a été suspendu sans solde pour une période de 35 jours. Le comité de déontologie policière a retenu hier que la preuve a révélé que l'agent Denis Burel a été dépassé par les événements. L'agent a d'ailleurs dit n'avoir aucun souvenir d'avoir utilisé son arme intermédiaire lors de la manifestation qui a viré à l'émeute, le 4 mai 2012, devant le Centre des congrès de Victoriaville, où se tenait le Conseil général du Parti libéral du Québec. Or, Denis Burel a tiré pas moins de 10 balles de plastique lors de l'événement. L'une d'elles a atteint Alexandre Allard à l'oreille, lui infligeant une double commotion cérébrale et une fracture de l'os temporal. Une autre des balles tirées par l'agent Burel a atteint Dominique Laliberté-Martineau en plein visage. La jeune femme a subi une double fracture de la mâchoire, en plus de perdre 6 dents. Deux, trois, fuyez. Des babouins se sont échappés ce week-end d'un centre de recherche au Texas, signe de leur intelligence, mais aussi, selon une association, de leur désir de fuir les laboratoires. Les 3 bêtes font partie des 1100 babouins de l'Institut de recherche biomédical du Texas, situé à San Antonio, qui utilise ces primates pour étudier des maladies comme le sida, la malaria et le virus Ebola. Elles se trouvaient dans un enclos entouré par des murs lorsqu'elles ont utilisé l'un des tonneaux placés là en tant qu'outil d'enrichissement pour s'échapper, a indiqué l'Institut. L'un après l'autre, les babouins sont montés sur le tonneau et ont sauté. Un quatrième a escaladé le mur, mais s'est ravisé et a rebroussé chemin. Les 3 autres ont pris la poudre d'escampette. We'll be right back. Un client vraiment content a laissé 2 000 $ de pourboire, soit plus de 2,5 fois le prix de son repas après avoir dîné dimanche dans un restaurant chic de Chicago. Le restaurant Boca, doté d'une étoile au guide Michelin et qui se décrit comme un établissement servant des plats de saison américains, a publié sur Instagram une photo de ce client, simplement identifié comme Mike, visiteur venu de Seattle. Il pose avec le personnel de cuisine, tout sourire, et lève les pouces en signe de satisfaction. Après avoir laissé un pourboire initial de 300 $ pour une note de 759 $, il est allé en cuisine pour donner 100 $ à chacun des 17 employés, a expliqué le restaurant. Alors qu'aux États-Unis, un pourboire peut aller d'ordinaire jusqu'à 20 % du prix du repas, celui-ci en représente 260 %.
Jacques Higelin, la pièce part.
Les journaux régionaux maintenant, la Tribune, René-Charles Quirion, mise en garde sur le perçage. Une perceuse professionnelle de Sherbrooke lance une mise en garde relativement à la sécurité entourant la qualité du perçage aux oreilles ou au nombril fait avec un pistolet. Marie-Christelle Abrael du studio Unique Perçage Tatouage de Sherbrooke soutient qu'elle reçoit régulièrement des personnes dont le piercing s'infecte après avoir été réalisé par des non-professionnels. Le problème demeure que ces perçages entraînent des conséquences. Elles sont trop serrées ou faites en angle. Ils deviennent douloureux pour la personne et peuvent s'infecter. Je peux recevoir 2 à 3 personnes par semaine qui se font percer au gun, dont le travail s'est infecté, explique celle qui pratique le perçage depuis 5 ans. Elle insiste sur le fait que les piercings doivent être réalisés dans un endroit doté d'une pièce de stérilisation du matériel. Souvent, les gens vont dans des résidences ou dans des centres commerciaux au milieu des autres clients. Ces perçages sont réalisés par des gens qui n'ont pas de formation. Il y a aussi tout le risque relié à la contamination croisée, prévient Marie-Christelle Abrael, qui pratique son métier dans une pièce aseptisée à la manière d'un bureau de médecin. Elle affirme avoir rencontré certains cas où la personne a dû être dirigée à l'urgence afin de se faire prescrire des antibiotiques à la suite d'un perçage mal effectué. « Je ne recommande pas non plus le perçage pour les enfants de moins de 5 ans. » La réputation du perceur, la propreté du studio, la stérilisation du matériel et la qualité des bijoux demeurent des éléments importants pour assurer une qualité du perçage, une qualité au perçage. Payer un peu plus cher pour un bijou de qualité idéalement en titane peut faire une différence. C'est un métal qui est utilisé lors de chirurgie. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Alors, justement, concernant les enfants de moins de 5 ans, en bas âge, le système immunitaire n'est pas assez développé. Les parents doivent éviter de céder aux pressions sociales, estime Marie-Christelle Abrael, qui utilise des aiguilles neuves et stériles qu'elle jette après chaque utilisation. Elle signale qu'il n'existe pas de formation spécifique de certification ou de réglementation pour effectuer des perçages. Ça pourrait effectivement permettre d'éviter les problèmes ou ceux qui s'improvisent dans le domaine. Pour l'instant, il existe certaines formations pour prévenir la contamination croisée. Mais le métier s'apprend avec des maîtres et apprentis, comme c'était le cas avec plusieurs métiers pendant plusieurs années. En Europe, le métier de perceur est beaucoup plus réglementé. Il serait temps que ce soit le cas ici, dit Mme Abrael. Le CIUS de l'Estrie CHU ne apporte aucun signalement concernant un problème relié au piercing. Aucune hépatite C ou hépatite B aiguë a été déclarée dans les derniers mois. Une campagne de sensibilisation avait été lancée en 2004, ciblant les risques reliés au tatouage et au piercing. Dans le Nouvelliste, Brigitte Trahan, un nouveau départ loin de Walmart au supermarché IGA, Barry de la rue Trudel à Shawinigan, les habitués côtoient depuis mardi 2 nouveaux visages parmi le personnel. Catherine Plamondon et André Blais faisaient partie des employés du programme d'intégration au travail des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble de l'autisme de Walmart. Juste avant le week-end de Pâques, ils ont perdu, comme 17 autres personnes du même programme, leur travail chez Walmart. Pour eux, le drame d'une perte d'emploi est maintenant chose du passé. Chez IGA Barry, on employait déjà des personnes ayant une déficience intellectuelle depuis 20 ans. Selena Barry, la propriétaire, n'a pas hésité une seconde à embaucher 2 de plus. « On ne s'est même pas posé la question », dit-elle. Au début, Mme Barry voulait embaucher seulement Catherine Plamondon, mais j'ai des employés qui sont venus me voir pour me dire qu'ils connaissaient André. Ils avaient travaillé avec lui et ils me demandaient si l'on pourrait le prendre dans l'équipe aussi. Madame Barry ne cache pas qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, les bras ne sont pas de trop. Les enfants du Code 34, la chronique de Mylène Moisan, Sylvie et Karine ont trouvé une école pour leur garçon et ça tombe bien, l'école veut bien les accepter. Mais ce n'est pas possible. Ils entendent. L'école en question, c'est l'école oraliste de Québec où on enseigne aux enfants malentendants et sourds. Alors même si les enfants de Sylvie et Karine ont les mêmes besoins que les élèves qui y sont, ils ne peuvent pas la fréquenter. il faut modifier le permis. Et pour modifier un permis, il faut se lever de bonne heure. Sylvie l'a appris à la dure, ça fait 2 ans qu'elle se fend en quatre pour que l'école ait la permission du ministère de l'Éducation d'accepter son garçon, qui a de très sérieux troubles de langage. Elle a commencé ses démarches avant que son garçon entre en maternelle, question qu'il parte du bon pied. L'école oraliste a évalué qu'il correspondait au profil des autres élèves. La commission scolaire de la capitale a recommandé le 23 mars 2017 qu'il y soit inscrit. Mais il fallait avoir la permission du ministère. La réponse est arrivée le 15 mai 2017. L'admission d'élèves ne présentant pas une déficience auditive n'est pas autorisée au permis de cet établissement. Merci, bonsoir. Sylvie s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule. Karine vivait exactement la même chose. Leurs fils sont tous les deux des enfants du Code 34, comme tous ceux atteints de troubles du langage, sauf qu'ils ne cadrent nulle part. Depuis un an, les deux femmes se battent ensemble. L'école oraliste a fait en novembre la demande officielle d'un permis pour accueillir des enfants comme les garçons de Sylvie et de Karine, mais le ministère exige plus encore. Les deux mères doivent convaincre les 9 commissions scolaires des régions 03 et 12 d'approuver le changement. Vous avez bien lu. Elles ont pris leur bâton de pèlerine et contacté toutes les commissions scolaires. Elles ont rencontré des commissaires, elles ont fait des présentations, rencontré des directions générales. Quand on leur explique ce qu'on veut, il y en a qui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils ont à voir là-dedans. Dans une commission scolaire, on les a fait venir à une réunion pour présenter leurs demandes. Ils ont discuté 20 minutes du changement de nom d'une école. Ils ont parlé d'un projet de sac à dos avec des livres dedans. Nous, on a eu 3 minutes. Pas de proposition, pas de motion. Ma mère était à l'hôpital, elle venait de se faire opérer. Karine, c'était son anniversaire de mariage. On a pleuré en sortant. Au ministère, on me dit que le dossier évolue. Chaque jour qui passe est un jour de trop pour les enfants qui, exception faite de leurs troubles de langage, n'ont aucun trouble d'apprentissage. Le garçon de Sylvie ne parle pas. Il est dans une classe langage. Il a de l'orthophonie juste une fois par 2 ou 3 semaines. Il n'a pas appris un seul mot depuis le début de l'année. Il en a même perdu. Il disait « Maman, aide-moi ». Il ne le dit plus. Karine, elle, a dû se tourner vers l'école privée. Son école de bassin ne lui offrait absolument aucun service. Ça nous coûte 10 000 $ en tout par année, si on compte les services d'orthophonie et les autres services qu'il faut nous-mêmes payer. On n'a pas vraiment les moyens, mais on n'a pas le choix. Mais même là, son petit bonhomme de 6 ans écope. Il trouve ça très difficile. Des fois, je vais le chercher le soir, il me dit « Maman, même pas pleurer ». Il s'est retenu. Je me retiens aussi. À l'école oraliste, les garçons seraient avec des enfants qui doivent aussi apprendre à parler. Nos enfants, il faut leur montrer comment faire bouger leur bouche. Ça va jusque-là. Et c'est ce qu'ils apprendraient à l'oraliste. Et une fois qu'ils vont avoir appris à parler, ils vont peut-être pouvoir continuer leur cheminement scolaire. Ils sont aussi intelligents que les autres, ce n'est pas ça le problème. Ça ne coûterait même pas plus cher à l'État. Peut-être moins en fin de compte. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, est au courant du problème. Il a dit à Karine qu'il s'en occuperait. Cette semaine, les deux mères ont reçu la copie d'une lettre du ministère. On y lit que la question de la modification du permis de l'école serait transmise à la commission consultative de l'enseignement privé avant le 17 mai, qu'un avis sur le principe pourrait être formulé par le comité régional des directions générales des 9 commissions scolaires de Québec et de Chaudière-Appalaches. Il sera trop tard pour l'année scolaire en cours. Les deux mères sont essoufflées. Heureusement qu'on est ensemble. Quand une n'a plus de force, l'autre prend le relais, confie Karine. Si nos enfants dérangeaient, ils auraient des services.
Tu m'as aimé dans un bain de sang. Tu nous as léché avec tes crocs coupants. Tu voulais me sans toi, mais je dansais avec Dieu déjà. Tu dans ta gueule à toi, tu t'es tué encore une belle fois. Je t'ai regardé te de tes mots. Au fond, je savais qu'elle ne me garderait pas au chaud. J'ai voulu nous porter par-dessus l'eau, mais j'ai trébuché.
C'était La Bronze, on danse par en dedans.
Actualité culturelle, je vous en ai glissé un mot hier à propos de ce film qui s'en va à Cannes, Le sujet de Patrick Bouchard à Cannes. On en parle dans Le Quotidien sous la plume d'Anne-Marie Gravel. Patrick Bouchard peine encore à le croire. Son court-métrage d'animation, Le Sujet, a été sélectionné pour la 50e quinzaine des réalisateurs à Cannes. Le Chicoutimien d'origine sera le seul représentant du Québec à prendre part au festival cette année. Le film d'animation de 10 minutes, le plus personnel du cinéaste, sera présenté dans le cadre de la section parallèle du prestigieux Festival de Cannes, qui se tiendra du 8 au 19 mai. Le court-métrage figure parmi les 10 sélectionnés sur quelques 700 propositions soumises. J'ai appris la nouvelle il y a quelques jours, je ne m'en attendais pas du tout. Maintenant que c'est annoncé à tout le monde, je réalise ce qui s'en vient pour moi. C'est excitant, je suis très heureux, affirme celui qui enseigne le cinéma d'animation à l'UQAC. Il s'agit d'une première présence à Cannes pour Patrick Bouchard qui cumule 5 courts-métrages d'animation, tous produits par l'ONF. C'est le genre de choses qu'on espère toujours. On fait des films pour qu'ils soient vus, mais c'est surtout un tremplin pour le film qui est en début de carrière, estime celui qui a notamment remporté le Jutra du meilleur court-métrage d'animation à 3 reprises, Les Ramoneurs cérébraux en 2002, Dehors novembre en 2005 et Bide l'eau en 2012. Le sujet a été projeté pour une première fois au rendez-vous Québec Cinéma en février dernier. Le public de Regard a ensuite pu le découvrir en mars. Le passage du court-métrage à Cannes permet au cinéaste d'espérer qu'il aura une longue vie en festival. Ça permettra d'attirer l'attention des programmateurs de festivals. Une présence à Cannes, ça aide à tous les niveaux. Il y a toute une industrie là-bas. Une présence à la quinzaine des réalisateurs, ça implique beaucoup de choses. C'est plus important que je ne peux l'imaginer. D'autant plus qu'il y a toujours un impact à tout. On ne revient jamais vain d'un festival, assure-t-il. Patrick Bouchard compte profiter pleinement de l'expérience qui lui est offerte. « J'y serai pendant 8 jours. Mon film sera projeté 2 fois. Le sujet met en scène un animateur qui fait face à son alter ego, sous la forme d'un moulage de son propre corps. L'animateur ouvre son corps et en sort des objets liés à sa vie jusqu'à ce qu'il parvienne à identifier le poids dont il veut se départir. » Le cinéaste se livre, il se dévoile complètement dans le court-métrage dont il assume également la musique. Patrick Bouchard affirme que le sujet est pour le moins particulier. Il ignorait complètement comment il serait reçu. « Je suis heureux de la réception, c'est très gratifiant. » L'ONF a accepté de produire le film, même s'il s'agit d'une démarche particulière. « Ma vraie fierté, c'est qu'un film basé sur un concept risqué soit reconnu. Ça démontre que ce genre de cinéma peut se faire. Il y a une ouverture. » Après son passage à Cannes, le sujet, donc le titre du film, sera présenté en compétition au Festival international du film d'animation d'Annecy, qui se tiendra en juin. C'est une nouvelle que j'espérais beaucoup. C'est un festival uniquement dédié à l'animation. Ça permet de comparer des pommes avec des pommes, affirme celui qui présente un film à Annecy pour une troisième fois. C'est mon année, je vais en profiter. Le réalisateur américain Steven Spielberg vient de dépasser les 10 milliards de dollars de recettes au cours de sa carrière, un record. Comme le note le site The Wrap, le réalisateur à succès dépasse de loin la concurrence avec plus de 3 milliards de dollars d'avance sur son premier concurrent, Peter Jackson. Le site revient sur les plus grands succès de Steven Spielberg au box-office, parmi lesquels Jurassic Park, sorti en 1993, qui lui a permis d'engranger 983,8 millions de dollars à travers le monde. En 2008, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal a rapporté 786,6 millions malgré la déception des fans de la franchise, alors que l'incontournable E.T., l'extraterrestre, a rapporté 713 millions. Étant donné l'avance dont dispose Spielberg sur Peter Jackson, en deuxième position avec 6,5 milliards de dollars de recettes, le père de Jurassic Park n'est pas prêt de céder sa place de sitôt. Adam Sandler et Jennifer Aniston tourneront à Montréal. Les stars seront réunies dans la comédie Murder Mystery. Selon nos informations, ce film sera tourné à Montréal du début juin au début août. Une partie de l'équipe de production est installée dans les locaux du studio Mills pour préparer le tournage et construire les décors. Selon le magazine Variety, Adam Sandler et Jennifer Aniston cherchaient depuis longtemps un nouveau projet qui leur permettrait de retravailler ensemble après s'être donné la réplique dans la comédie romantique Méchant menteur, qui avait connu un beau succès en 2011. Murder Mystery racontera les péripéties d'un officier de police de New York, joué par Sandler, et de sa femme, Aniston, qui se retrouveront impliquées malgré eux dans une histoire de meurtre lors d'un voyage en Europe. Le film est produit par Netflix. Quelques semaines de tournage du film sont aussi prévues en Europe. Chronique du goût du mois, Six pieds sur terre avec Marina. Fans de la scénariste Chantal Cadieux qui a créé les personnages tordus et complexes de Laurie Linda, incarnée par Sophie Paradis, et Bobby Stéphane Yann Rompré, dans Mémoire vive, réjouissons-nous. L'auteur à l'imagination la plus fertile du showbiz québécois signera un nouveau roman pour la saison 2018-2019 de Radio-Canada, avec Marina Orsini dans le rôle principal. Son titre, Une autre histoire. Comme cette série porte la griffe de Chantal Cadieux, elle renfermera beaucoup de cachotteries, des personnages au passé trouble et de nombreux mystères à élucider. Une production foisonnante de type poupée russe qui nous clouera au sofa. Toutes les semaines, je le sens. Marina Orsini campera Anémone Leduc, une thanatopractrice, comprendre une embaumeuse, de 53 ans, souffrant d'Alzheimer précoce. Cette Anémone, une femme à la fois fragile et résiliente, porte un énorme secret. Il y a 30 ans, elle s'appelait Manon, habitait à Montréal et a abandonné ses trois jeunes enfants. Pourquoi? Parce qu'elle vivait de la grosse violence. Aussi, autre nouvelle, c'est malheureusement officiel, Marc Lavrèche ne participera pas au prochain Bye Bye de Radio-Canada, comme il se prête à l'exercice du sketch et de la perruque dans Info, sexe et mensonges. Il avait l'impression de trop se répéter. On peut le comprendre. Aussi, le contrat qui lie Marc Labrèche à Télé-Québec pour l'animation d'un grand plateau du samedi soir est d'une durée d'un an et non de deux, comme je l'avais rapporté hier. On me dit également que le mandat culturel accolé à cette nouveauté évitera les guéguerres internes pour l'obtention d'invités. Problème réglé, alors. Dans son projet tout neuf, Marc Labrèche discutera de culture avec une bande d'amis festive le samedi soir, entre deux verres de vin de qualité, sans être didactique ni empesé. Le but de l'émission, donner le goût aux téléspectateurs de consommer davantage de culture en revisitant les classiques et en les replaçant dans le contexte actuel.
Ce soir, c'est étrange. Dans tes yeux, je vois passer des anges. Y'a même dans tes silences des mots d'amour en transparence. Ce soir, c'est bizarre. Tellement j'ai besoin de croire. Tant de douceur et de sourire. Tant de promesses qu'on ne peut tenir. Mais après, offres-tu encore cette façon de me regarder? Mais après, diras-tu encore ces choses qui me font chavirer? Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Demain matin, penseras-tu à moi? J'ai peur tout simplement que de nous deux, tu sois perdant. Un beau jour te retrouver toute seule à force de trop m'aimer. Alors jure-moi d'avoir toujours cette façon de me regarder. Oui, jure-moi de me dire encore ces choses qui me font. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Mais demain matin, penseras-tu à moi? Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Mais demain matin, penseras-tu à moi? Ah.
Ce soir, l'amour est dans tes yeux, nous chantait Geoffroy.
Sujet libre, opinion, Jean-François Dumas, c'est dans la section débat de la presse où sont passés nos universitaires. Il y a rarement des fossés importants qui circonscrivent les différents types de médias. La radio, la télé, les journaux et le web s'intéressent généralement au même genre de nouvelles. C'est dans le traitement de l'information qu'on y découvre certaines nuances notables. Depuis les 5 dernières années, la presse écrite, c'est-à-dire les quotidiens et les sites web, a accru considérablement son intérêt pour les universitaires comme source d'information ou à titre de commentateur. Dans les faits, les chercheurs tels que les philosophes, les spécialistes en éthique, les sociologues ou les anthropologues ont augmenté leur poids média de 180% entre 2013 et 2017. À l'inverse, à la radio et à la télévision, la classe universitaire a perdu 19% de sa vélocité pendant la même période. Depuis 24 mois, c'est une chute moyenne de 7% par année. À ce rythme, les Luc Dupont et Donald Cucciuletta de ce monde risquent de se sentir bien seuls dans une dizaine d'années. Gardons en tête que la télévision est et demeure un média d'impact majeur pour influencer les comportements. C'est encore plus inquiétant à la veille d'une campagne électorale. Lors des élections en 2014, l'ensemble des médias québécois ont cédé 4 fois moins de place aux professeurs d'une ou l'autre de nos universités qu'ils l'avaient fait en 2003. Ajoutons aussi qu'en 2014, l'analyse a été 6 fois plus volumineuse dans notre écosystème médiatique que lors des élections de 2003. Dans les faits, notre presse accorde de moins en moins d'attention aux propos des politiciens, mais les décortique de plus en plus. En langage de hockey, on a beaucoup plus d'analyse que de jeu. C'est comme si l'antichambre à RDS analysait chaque partie du Canadien pendant 3 jours. Je sais, c'est pas mal ce que fait l'antichambre, mais bon, vous comprenez l'analogie. On a quelques beaux esprits qui peuplent nos médias, mais qu'en est-il de nos universitaires? Nous ne manquons pas d'électrons libres. L'opinion, qui occupe plus de 25% du contenu écrit et près de 90% des médias parlés, impose une large panoplie de commentateurs et de chroniqueurs. Ce n'est pas une mince tâche de remplir chaque jour des chroniques avec une opinion soutenue, structurée et intéressante. L'universitaire n'étant pas contraint par un tel impératif peut donc avoir le recul nécessaire pour apporter des éclairages différents. Alors pourquoi les voyons-nous et les entendons-nous de moins en moins? Une piste me vient en tête pour tenter de comprendre le phénomène. Le besoin d'être intéressant et « formaté » entre guillemets pour répondre au goût de l'auditoire. Avouons-le, il faut un gros effort pour être ennuyant quand on est simplement cité dans un quotidien. À la radio et à la télé, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas en vouloir au Club des Ex, à RDI, ni à la Joute sur LCN, de miser sur des débatteurs colorés et divertissants. Les prochaines générations de chercheurs universitaires devraient être mieux sensibilisées et formées aux besoins des médias modernes. Savoir résumer 20 ans de recherche en une entrevue de 1 minute 50 n'est pas donné à tous, je comprends. Pour vous retrouver en entrevue avec Dutrisac, Dumont ou Arcan, vous n'avez pas le temps de regarder vos souliers. Pour être plus présent dans les médias, les universitaires sont condamnés à être pertinents, intéressants et surtout que les médias pensent à eux. 3 conditions qui ne sont pas à la portée de tous les chercheurs et professeurs dans un environnement où l'impératif commercial prend une aussi grande importance. Est-ce du snobisme, un nivellement par le bas, une méconnaissance ou du mépris? À leur défense, il faut aussi se demander si, comme société, nous n'avons pas besoin de diversifier davantage les points de vue et les angles de réflexion. Valorisons-nous assez nos intellectuels? Leur accordons-nous le rôle qui devrait leur revenir dans un Québec qui s'interroge autant sur l'immigration, l'intégration et le développement social? Notre démocratie y gagnerait sans doute beaucoup. Alors c'est donc l'opinion de Jean-François Dumas. Où sont passés nos universitaires? Telle est la question. Des routes de plastique contre les nids de poules. Le problème, les routes sont criblées de nids de poules et les océans sont remplis de déchets de plastique. La solution, aux Pays-Bas, une entreprise propose de construire des routes plus durables en plastique recyclé, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Idée d'ailleurs, comment ils se sont attaqués au problème. Alors, comment l'idée est-elle née? Volker Wessels est une multinationale néerlandaise de 15 000 employés qui construit des bâtiments résidentiels, des installations industrielles et des routes. Comme tout le monde, elle a noté que ces dernières se dégradaient vite et nécessitaient beaucoup d'entretien. Elle a lancé l'idée de routes de plastique recyclé qui, selon elle, pourraient être trois fois plus durables que les routes d'enrobés bitumineux, communément appelées asphalte. Les routes seraient faites d'assemblages de panneaux préfabriqués. Quels sont les avantages? D'abord, celui de contribuer à régler l'immense problème de pollution causé par les bouteilles et les autres déchets de plastique qui jonchent les sols et les océans. Volker Wessels croit ensuite que de telles routes pourraient durer jusqu'à 50 ans. Le fait qu'elles soient faites de panneaux préfabriqués permettrait une construction plus rapide, ce qui diminuerait les entraves à la circulation. Des espaces vides seraient aménagés sous les panneaux afin de pouvoir y faire circuler les tuyaux et les fils. L'entreprise souligne aussi que les panneaux seraient légers, ce qui faciliterait leur manipulation et leur transport. Y a-t-il assez de plastique pour appliquer la solution à grande échelle? Oui. Le problème des déchets de plastique touche l'ensemble de la planète. On estime que 8 milliards de kilogrammes de plastique se trouvent dans les océans et des projets pour essayer de le récupérer sont sur le point de démarrer. De telles routes ont-elles déjà été construites? Non. Volker Wessels continue de développer un prototype. Plusieurs villes, dont Rotterdam, ont offert des espaces pour tester le concept. L'entreprise cherche aussi des partenaires pour l'aider à faire avancer l'idée. Le groupe veut commencer par la construction d'une piste cyclable. Ces routes seront-elles glissantes? Il faudra s'assurer que les routes de plastique ne se transforment pas en patinoires à la moindre averse de pluie, sans compter la neige et la glace. L'entreprise affirme qu'elle vérifiera d'abord s'il y a moyen de rendre le plastique lui-même antidérapant. Sinon, elle jongle avec l'idée d'y intégrer du sable ou du gravier à la surface. Notre objectif est d'intégrer la rugosité à la route elle-même, explique Volker Wessels sur son site web. Les routes seront-elles bruyantes? Il faut attendre pour le savoir, affirme l'entreprise, qui admet qu'il est possible que les panneaux de plastique agissent comme des caisses de résonance et amplifient les bruits de la route. De notre côté, de nouvelles textures sont conçues pour réduire le bruit des routes en enrobés bitumineux, dont certaines par Volker Wessels elle-même. Or, l'entreprise affirme qu'il sera encore plus facile de les fabriquer en plastique. Avis de l'expert Alan Carter, directeur du laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux à l'École de technologie supérieure de Montréal. Au Québec, cette idée devrait être adoptée, étudiée ou rejetée. Alors, c'est étudié qui est mis en lumière. Je donne la chance aux coureurs. J'ai tendance à croire que c'est possible, mais je mets beaucoup de bémols, dit le professeur. L'expert explique qu'à la base, le plastique recyclé est loin d'être idéal pour construire des chaussées. Il devient fragile et cassant à basse température, ce qui provoque quelques inquiétudes quand on imagine les déneigeuses québécoises prenant les routes d'assaut à moins 30. À la chaleur, le plastique recyclé devient mou et peut se déformer. Ça va certainement demander une modification chimique du plastique pour obtenir des caractéristiques plus intéressantes, dit le spécialiste. Est-ce qu'au bout du compte, ce sera rentable d'un point de vue financier et environnemental? Je n'en ai aucune idée. On a peu d'informations techniques pour l'instant, mais pour moi, le nerf de la guerre est là. Sinon, le spécialiste aime beaucoup l'idée de panneaux préfabriqués qui peuvent être assemblés sur place. Cette idée gagne du terrain. On le fait déjà avec des dalles de béton de ciment, souligne-t-il. Que la dalle soit en béton ou en plastique, c'est le même principe. Installation rapide, faible perturbation de la circulation. J'aime l'idée des dalles évidées pour qu'on puisse passer des trucs à l'intérieur. En ville, ce pourrait être très utile, ajoute l'expert, qui souligne toutefois qu'il faudra trouver un moyen de changer une dalle sans devoir couper tous les fils et tuyaux qui circulent dessous. C'est tout pour le quotidien des quotidiens édition du 18 avril 2018. Un grand merci de nous avoir choisi, de nous avoir suivi aussi. Ici Hélène Denis qui vous dit à tantôt puisque j'anime les paractualités. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. On se retrouve demain, Maurice. À demain.